Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, contente de vous retrouver pour un nouveau voyage dans le temps avec un nouvel invité. Il est l'homme qui divertit, qui bouscule, qui choque. Même les moments où il se fait discret, il arrive à faire du bruit. Je sais pas si son escargot sort souvent de sa coquille, je sais pas combien mesure son bâton de majorette. Peut-être qu'il nous le dira d'ici la fin de l'émission. Mon invité aujourd'hui, c'est Patrick Sébastien, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Patrick Sébastien.
Bonjour, c'est un réel plaisir.
Attendez.
À chaque fois de.
Ouais, alors attendez.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?
Je mesure votre température.
Non, ça va.
Non, ça
Quand
va.
Je te vois, elle monte parce un tout petit peu.
Je prends votre température parce que. Waouh!
C'est
chaud. Êtes... Mais vous êtes dingue!
Je suis dingue.
Et tu le savais. Complètement taré.
Tu le savais, toi qui as lu mes livres et qui les a lus entre les lignes, tu sais que je suis complètement taré. Non, pas complètement taré, non, pas complètement.
Non, pas complètement.
J'ai écouté... ce qui est fou, c'est que cette connerie-là que j'ai fait pour m'amuser avec des potes, on en est, je crois, à 40 millions de vues sur les réseaux, ce qui est un truc hallucinant.
Cette connerie, c'est votre dernier album qui s'appelle Olé Osé.
Ouais, des chansons paillardes.
Ouais,
cru.
Il y a d'ailleurs une petite mention, chanson très crue, inédite et interdite. Ouais. Si on passe, par exemple, à la radio, ça donne ça. Bon, on a un peu exagéré.
Je connais des radios, oui, ils ont mis en entier.
Ouais, mais il y a beaucoup d'enfants qui nous écoutent à cette heure-ci.
Oui, mais là, le si tu connais bien le texte, je traite de l'alopécie testiculaire. Je
t'écoute. Bon, un petit extrait quand même.
Madame la comtesse préfère les comtesses. Madame,
ah, t'as pris du léger.
Ouais.
Préfère les baronnes. Pourquoi te marier, ma fille?
Ouais, t'as pris du léger.
Bah ouais.
C'est la mère Lachaise, celle qu'on adore. Elle mériterait sa place au livre des records.
En fait,
vous
on
avez
a
enlevé
on a...
tous les gros mots. Hein. Mais on fait tourner la quéquette à Raoul, c'est pas un gros mot.
Et puis il y a beaucoup d'images aussi.
Et c'est marrant parce que sur les réseaux, je pensais qu'ils me censuraient ce truc, mais est-ce que tu l'as vu mon cul? Ils l'ont laissé passer très bien.
Patrick Sébastien, je fais partie de ces 40 millions de personnes qui ont regardé sur les réseaux sociaux vos vidéos, vos chorégraphies. Vous êtes à jeun quand vous écrivez ces chansons ou pas?
Ah ben, je bois plus. Je fête dans un an mes 40 ans sans alcool. J'ai bu beaucoup jusqu'à mes 32 ans. Je suis donc un beauf, c'est-à-dire que je suis tolérant, je suis soutien LGBT, je ne bois pas, je ne prends pas de tranquillisants, je ne prends pas de drogue, je suis absolument tolérant avec mes amis. Donc je suis un beauf. Blaireau, soyez-le, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, la genèse de ça, c'est que pendant des années, moi, mes chansons festives, c'est juste le petit bonhomme en mousse, les sardines, les serviettes, il n'y a pas de gros mots dedans. Et les imitateurs, mon copain Gérard, entre autres, m'a parodié Laurent en disant Gérard. « On va se mettre un doigt dans le cul ». Moi, j'aurais jamais chanté ça. Jamais. Mais comme ils l'ont fait, eh ben, je vais le faire moi.
Mais
je vais être
peut...
ma caricature.
Mais oui, donc on ne peut plus vous caricaturer, on ne peut plus vous parodier.
C'est-à-dire qu'au moins maintenant, quand ils vont dire que je suis grossier, c'est vrai. Et alors qu'avant, ce n'était pas vrai, c'était une injustice.
Patrick Sébastien, il n'y a rien de révolutionnaire. Des chansons paillardes, il en existe depuis longtemps.
C'est connu depuis très longtemps.
Ce qu'il fallait faire,
c'était... Je voulais faire du paillard, mais festif. C'est-à-dire que pour que les gens puissent la chanter entre eux, c'est-à-dire que ma musique à moi, les anciennes chansons paillardes, elles sont quand même un peu frustres, tu vois. Il y a plein de refrains doublés pour que les gens chantent en chœur, voilà.
Mais est-ce que vous pensez quand même que les gens sont devenus plus coincés aujourd'hui?
Non, au contraire. Alors c'est très marrant parce qu'on va aller plus loin. J'ai eu cette semaine un article dans Philosophie Magazine.
C'est la consécration.
C'est assez extraordinaire. Où ils analysent le phénomène en disant que c'est une soupape. À un moment où les gens en ont marre qu'on leur impose des trucs, et cette espèce de truc complètement anticonformiste qui va loin, ça les libère énormément. Alors l'article de Anne-Sophie Moreau, qui est une fille que j'ai eue au téléphone longuement, parle de la profondeur du superficiel dont parlait Nietzsche, parle de Simone de Beauvoir qui disait que la fête est une apothéose du présent pour éviter l'inquiétude de l'avenir. C'est philosophique, mais c'est vrai. Le but, moi, c'est juste de rendre les gens heureux sans barrière. Alors, je comprends.
Ah bah, il n'y a pas de barrière.
Je comprends que ça choque des gens. Ils ne sont pas obligés d'écouter, voilà.
Non, mais même moi, j'ai été choquée quand j'ai écouté les paroles. Mm-hmm. Mais j'étais morte de rire, en fait,
parce que ça va tellement loin. C'était pas facile à faire, parce qu'en plus, il y a des messages dedans. J'ai une chanson sur les trans. Il y a un message qui va au-delà de la simple gaudriole.
Mais justement, votre album, Patrick Sébastien, il est grivois, il est chaud, mais il traite de plein de sujets si on le prend en mode premier degré. Vraiment,
en
ça parle
degré,
de sexe, évidemment, de plaisir, de résistance, d'anticonformisme, de nostalgie, de féminisme.
De résistance, surtout. La chanson qui menait le truc,
c'est... Non, mais laissez-moi terminer mes questions.
Bah, tu sais bien que je ne sais pas le
faire. Mais non,
mais
c'est dingue.
Vas-y.
Non, mais je disais, ça parle aussi de féminisme. Sur le titre « Quand vas-tu te marier ?», c'est une femme qui veut trouver un mec qui la saoulera pas, qui pourra la satisfaire. Être une femme libre...
C'est dit autrement. Mais j'en connais.
Ouais, bah oui, mais je peux pas le dire de la même façon. Être une femme libre, pour vous, Patrick Sébastien, ça passe par quoi ? On demande souvent la question aux femmes.
Bah, moi, ce que j'ai toujours considéré, c'est que c'est comme ça que j'ai toujours traité les femmes. Là, moi, je suis en train de vivre une séparation avec ma femme, qui est un exemple pour tout le monde. On est amis, elle travaille avec moi, elle s'occupe de moi, elle a sa vie, j'ai la mienne, elle ne m'appartient pas. Je trouve qu'être une femme, c'est être libre, c'est ne s'appartenir à soi. Être libre de faire ce qu'on veut de son corps, de ne rien en faire si on a envie de rien en faire. Moi, je connais des nanas qui sont capables de se taper 5 mecs dans la soirée et qui sont pas méprisables. Hein. C'est leur vie, c'est leur choix. En fait, la liberté absolue, elle n'existe pas. La liberté, c'est de choisir sa cage. Et chacun choisit la cage qu'il veut. Et pour moi, les femmes qui ont été avec moi, elles m'ont jamais appartenu. Et mon bonheur est qu'elles aient du bonheur, elles. C'est-à-dire qu'il faut accepter, ce qui n'est pas évident pour plein de couples et pour plein de mecs, et surtout dans ceux qui me donnent des leçons, accepter que ta partenaire soit heureuse en dehors de toi, il n'y en a pas beaucoup qui l'acceptent. Moi, je l'ai toujours accepté.
Justement, l'amour, les femmes, le couple, la fidélité, on va y revenir d'ici la fin de l'émission. Patrick Sébastien, il y a un titre aussi sur cet album, c'est Vanille Chocolat.
Fais-lui la béquille, il veut être une fille.
Ça sonne en plus.
Ajouter des roustons, il veut être un garçon. Moi je dis, c'est chacun sa vie, ça ne regarde que toi. Et si t'en as vraiment envie, après tout, pourquoi pas ?
C'est un message LGBT. Hein.
Sur ce titre, vous parlez de la société qui évolue, vous y évoquez l'identité, le genre, les hommes, les femmes. Jean-Marie est devenu Manon, Amélie est devenue Léon, Jean-Marie met des portes-jartelles. Vous dites en gros, chacun fait ce qu'il veut, ça a l'air super facile, pourtant ça ne l'est pas.
Ben, ça n'est pas dans la vie de tous les jours. Il y a plein de gens qui... J'ai deux personnes qui travaillent avec moi, qui sont mes régisseurs, qui sont un couple d'homo mariés, que j'aime énormément. L'homophobie, elle est réelle partout. Hein. D'ailleurs, il y a une très belle phrase que j'ai mise dans mon prochain bouquin qui va sortir, où je parle d'eux et je donne pas leur vrai prénom. Et ils me disent, mais Patrick, nous on s'en fout, on n'a pas honte d'être ce qu'on est. J'ai dit, moi, mais tu sais, dans la société d'aujourd'hui, il y en a qui considèrent encore que l'homosexualité est amorale. Et ils me disent, bah, ils sont pas tombés loin parce qu'on n'est pas amoureux, on est amoureux. Et ce qui nous dérange le plus, c'est pas la morale, c'est son bras armé, la bêtise. Et je trouvais que c'était très joli. Et moi, c'est des valeurs que je défends. Alors, si c'est ça, être un beauf, moi je veux bien, hein, y a pas de problème. Moi, je suis pour la liberté de chacun de choisir sa fonction de vivre à partir du moment où tu empiètes pas sur la liberté des autres. On m'a caricaturé, mais moi j'ai trois concepts dans mes relations sexuelles et amoureuses. C'est la liberté, le respect et le consentement. À partir de ça... prends bien ces trois valeurs, liberté, respect et consentement. J'ai le droit de faire ce que je veux, du moment que je respecte ces trois cadres-là. Et si on était tous dans ces trois cadres-là, c'est loin d'être blâmable. Hein.
Patrick Sébastien, Olé, Oser, c'est l'album qui vient de sortir, ça va tourner dans les teufs cet été, ça va se marrer, ouais, mais cet été dans les festivals aussi, surtout j'imagine, sur les plages.
Surtout qu'ils ont écouté, là, sur le petit clip qu'on a fait, est-ce que tu l'as vu mon cul?
Non, mais vous pouvez le dire quand même.
Est-ce que tu l'as vu mon cul? Il y a qu'un petit bout de la chanson.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu.
Est-ce que tu l'as vu mon cul?
Mon quoi?
Mon cul.
Ah, d'accord.
Non, mais c'est que après, dans la chanson, il faut baisser les pantalons et il faut se mettre des claques sur les fesses. Je pense qu'il y en a plein qui vont le faire.
Ici, dans le rétro.
Yeah.
Ah, le rétro.
On enclenche la téléportation, c'est parti pour notre voyage dans le temps.
On est où là?
Vous naissez en Corrèze. Oui. À Brive-la-Gaillarde, votre maman André a 17 ans, votre père lui s'est fait la malle, un homme qui se barre alors que sa femme met au monde leur enfant. C'est quoi? C'est de la lâcheté, la peur,
non,
de l'égoïsme?
Ça arrive encore aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la vie, c'est écrit comme ça. Pour moi, tout est préécrit. Voilà, nos destins sont préécrits. Chaque chose, notre rendez-vous là, il est préécrit. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a l'avantage d'atténuer et nos enthousiasmes et nos déceptions. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, c'est arrivé parce que ça devait arriver. J'ai connu suffisamment de drames dans ma vie qui sont arrivés pour me dire, eh ben, ça devait arriver.
Si voilà. Tout était gris, ça veut dire qu'on doit...
On n'a pas de libre arbitre. Aucun... Même quand on a une poussée de volonté, cette volonté, elle fait partie du plan. Elle nous est dictée. Et je vais même plus loin dans le bouquin que je suis en train d'écrire, où j'explique qu'on a notre camarde, notre mort attitrée, qui nous suit depuis le début. Du moment où on est condamné à mourir, de toute façon. Et elle nous suit, et il y a une date qui est déterminée à un point X. Alors, faut pas s'en faire une ennemie, parce qu'elle va nous prendre à un point X, mais en attendant, elle nous sauve la vie. Chaque fois qu'on passe à côté, c'est elle qui fait « c'est pas l'heure, c'est pas le moment », jusqu'au point où ça doit arriver. Alors, c'est invérifiable, et je sais pas si c'est vrai, mais ça aide à vivre. Ça aide à tout relativiser. Moi, je vis comme ça.
Vous n'avez peur de rien ?
Bah justement, c'est le thème, on en parlera quand je sortirai mon truc. J'ai intitulé le livre « Même pas peur » avec un point d'interrogation. Parce que ces peurs, elles existent partout. Dans les médias, dans l'amour, dans tout, etc. Alors, j'ai des peurs roses, que j'appelle les peurs roses quand j'étais gamin. C'est la peur qu'on s'inflige en sachant qu'il y a un plaisir derrière. Moi, j'adore aller prendre des risques pour une histoire de sexuelle parce que l'adrénaline de ce moment-là est ben encore plus jouissif. Voilà, ça c'est ce que j'appelle la peur rose. Elle est très marrante, mais elle existe, bien sûr qu'elle existe.
Patrick Sébastien, c'est des religieuses qui accouchent votre maman. Elle est jeune, ouais. Elle a un enfant hors mariage, elle a donc fauté, il faut qu'elle souffre. Est-ce qu'on peut pardonner à une religion ou à une institution religieuse qui a fait souffrir ?
C'est pas une institution, c'est une femme qui a dit à ma mère, elle devait accoucher le 13 novembre, il a dit, ben vas-y, souffre, il faut que tu souffres, il faut que tu payes ta faute. Mais c'est une autre mentalité, c'est la mentalité de l'époque.
Quand on pense aux institutions religieuses, aux souffrances, on pense en ce moment à l'affaire Bétarame, par exemple.
Oui.
200 anciens élèves de l'établissement catholique qui ont été victimes de violences psychologiques, physiques, sexuelles entre les années 50 et 2000. Est-ce qu'on peut pardonner à ceux qui savaient et qui n'ont rien fait ? Pareil avec l'abbé Pierre, d'ailleurs.
C'est compliqué. Avec l'abbé Pierre, avec plein d'autres choses. Tu sais, la peur, elle fait partie de la religion. Moi, quand j'étais petit, j'entendais toujours « si tu es pas sage, le bon Dieu va te punir ». Tout était basé sur la peur. Il y a une grande partie des croyants qui ne sont croyants que parce qu'ils ont peur du jugement dernier. C'est tout, c'est qu'est-ce qui va m'arriver après.
Mais donc, quel lien avec le pardon ?
Après, le pardon, moi, j'ai toujours pratiqué. C'est une solution pour se sauver soi-même. Moi, le pardon, je l'ai pratiqué, j'arrête pas de le répandre autour de moi. Du mieux que je peux, quand mon fils a eu son accident, il y a un mec qui avait débridé sa moto. Je veux pas savoir qui c'est. Ça m'intéresse pas. Il y a eu 7 accidents le même été avec la même moto. Alors si je suis procédurier, je vais aller attaquer la marque de moto. Et ça va me servir à quoi ? Ça,
sert à protéger ça peut-être des futures victimes.
Après, ça s'est arrêté, donc j'avais pas de raison d'aller au-delà. Mais oui, effectivement, le silence. Mais il y a des telles omertas partout, sur plein d'autres choses. C'est facile à dire, assis dans un studio. Voilà, je vais dénoncer ça. Moi, je parle dans le nouveau bouquin de copines qui sont faites harceler, violer, qui ne parlent pas. J'ai un ami qui s'est fait violer par son père pendant 4 ans. Bon, le père, il a fini en prison pendant 5 ans, mais j'ai dit, mais pourquoi t'as pas parlé à l'époque ? Il m'a dit, mais parce que ça va te paraître idiot. Je voulais pas l'envoyer en prison. C'était quand même mon père. Alors qu'il était ignoble avec lui. Il y a plein de raisons, plein de trucs qui font que les gens se taisent ou parlent, ou finissent par parler.
Pourtant, la parole se libère aujourd'hui.
Il faut parler. D'ailleurs, mon copain à qui c'est arrivé, il m'a dit, j'ai dit, t'as un conseil ? Pour les gamins, j'ai envie de leur dire parler, mais les gamins, ils vont pas lire ton bouquin. Donc j'ai envie de dire aux parents, soyez en alerte. Essayez de voir dans les yeux de vos enfants la peur qu'ils peuvent avoir. Je pense que c'était aux parents, à l'époque, à deviner, si possible.
Dur.
Pas deviner, mais être attentif. Parce que c'est souvent ça, l'enfant, il n'ose pas parler.
Vous pensez que ça se voit ?
Ah, je pense que si on est en alerte, il faut juste être en alerte. Si on est en alerte, on peut voir le malaise dans les yeux de... C'est ce qui s'était passé pour mon copain qui se fait voler par son père.
Mais il y a des enfants qui cachent tellement ça que...
Ben oui.
On le voit avec des histoires tragiques, d'ailleurs. Des enfants suite
coupables.
À des harcèlements qui se
les
suicident.
Vrais,
les parents
coupables.
Ont essayé de voir,
mais
ont
les
dialogué.
Coupables, les vrais coupables, c'est ceux qui se rendent coupables de ces saloperies, quoi. C'est inadmissible. Et puis, de toute façon, on est beaucoup trop gentils avec eux.
Vous trouvez ?
Ah oui, on est beaucoup trop gentils. Ah, moi, je me suis fait reprendre un jour dans une radio. Ben moi, si on fait du mal à mes enfants, je m'en fous d'aller en taule. Moi, je suis désolé. Ah oui, mais on fait pas sa justice soi-même. Ok, s'il y a le feu chez moi et que les pompiers arrivent pas, je vais éteindre le feu moi-même. Voilà.
Vous souhaiteriez la peine de mort pour ces gens-là ?
Non, c'est pas la peine de mort.
Faire justice soi-même, on peut pas.
Faire justice soi-même, c'est...
Donc on fait appel à la justice pour régler ce genre
de
choses ?
Il y a plein de manières de faire justice soi-même. Il y a plein de manières de faire justice soi-même.
Comment ?
En empêchant ces gens-là de recommencer.
Comment ?
Tu peux très bien t'arranger pour qu'ils aient plus envie de recommencer parce que les outils dont ils servent, on ne leur servira à rien.
Sauf qu'on ne peut pas faire sa loi.
On n'a pas le droit de faire ça, donc on n'a pas le droit de le dire.
En fait, le mieux, ce serait de pouvoir s'appuyer sur la justice et que la justice sévisse.
Ah oui, mais quelle justice ? Quelle justice ? La justice, on est dans la société de l'excuse. On est dans la société de « c'est pas sa faute ». Moi, pour moi, il y a un truc de base. La plupart des pédophiles ont été violés dans leur enfance. Les assassins ont toujours des causes, des machins. Pour moi, ça doit être des explications, mais jamais des excuses. C'est une manière de voir les choses. Aujourd'hui, on est dans la philosophie de l'excuse. C'est-à-dire, tout devient une excuse. Une explication, oui. Oui, oui, c'est une explication. C'est une explication, t'as vécu ça, donc ça explique. Mais en aucun cas, ça excuse. Mais malheureusement, on est dans la société de l'excuse.
Patrick Sébastien, j'évoquais tout à l'heure un peu la religion. Je vous propose une petite aparté parce qu'on parlait justement de religion. Sur votre album Olé Osé, il y a un chant liturgique.
La vraie question philosophique, ce n'est pas être ou ne pas être, c'est...
Est-ce que tu l'as vu, mon cul ? Est-ce que tu l'as vu ?
C'est pas liturgique, c'était une manière d'amener la chanson, je sais pas comment la commencer.
Mais non, mais j'ai fait exprès. Ouais. Bon, alors non, on ne l'a pas vu, on rate quelque chose ?
Le mien, non. Le mien, vous ratez rien. Hein.
Bon, Patrick Sébastien...
J'allais rajouter une phrase, mais je vais
non,
être accusé de sexisme.
Allez-y.
J'ai dit le mien, on rate rien, peut-être que le tien, je sais pas.
On rate rien non plus.
J'en suis pas certain.
Patrick Sébastien, on part maintenant à Juillac.
Ah, le beau temps.
On est maintenant dans le village de votre enfance, toujours en Corrèze. Votre maman, pendant longtemps, la traite de traînée, de putain. Quelle incidence ça a sur une femme, pas sur un enfant, attention, hein, mais sur une femme, que de se faire traiter de la sorte.
Il y a une force à trouver. On ne se fait pas traiter tout le temps de ça, mais il y a un regard sur le regard des autres. Quoi. C'est comme aujourd'hui, ces mecs qui font la morale et qui vont voir passer une fille dans la rue avec une jupe pour un des fesses et qui vont dire c'est une pute. Non, c'est pas une pute, elle a envie de s'habiller comme ça, c'est tout. Ça rejoint tout mon discours. Ma mère, on l'a mal jugée, et comme moi, mais on m'a tapé dessus à cause de ça. Ah, va te plaindre à ton père, t'en as pas. Bon. Et au lieu de garder de la haine de ça, non, je vais me servir de ça pour vous montrer que je vois autre chose.
Mais ça, c'est vachement mature. Quand on est enfant, on pense pas comme ça.
Tu commandes pas, c'est écrit comme ça. T'as été fait comme ça, les gènes font comme ça. Et puis j'avais quelqu'un au-dessus de moi, ma maman qui était l'ange gardien et qui m'apprenait à ça. Tu n'aies pas peur d'eux, un jour c'est toi qui leur feras peur. Moi, ce que je reproduis avec mes enfants le plus, j'ai pas été un très bon père, j'ai pas été assez présent. Mais il y a une phrase que je vous recommande à tous, que ma mère a eue pour moi et que moi j'ai pour tous mes enfants, quelles que soient leurs fautes, leurs erreurs, leurs conneries, c'est « j'ai confiance en toi ». Moi, mes enfants, même après avoir fait une connerie monumentale, je leur dis, quoi qu'il en soit, j'ai confiance en toi. C'est vital. Je suis pas très bon en sanctions. Je suis bon en morale pour leur dire, c'est pas bien. Mais surtout, à la fin de la morale, pas leur dire, tu vois rien, t'es machin. Non, j'ai confiance en toi. Et ça, je trouve que c'est... Et moi, c'est ce que m'a donné ma mère. Quand quelqu'un que tu aimes, qui est censé te protéger, te dit « j'ai confiance en toi », eh ben, tu as confiance en toi. Ça t'élimine des peurs, ça. Là, les chansons que j'ai faites, je peux me dire « ah non, mais putain, qu'est-ce que je vais prendre ?» Ils vont dire « non, j'ai confiance en moi, allez, vas-y, fais-le. » Fais-le.
Patrick Sébastien, votre maman était une femme courageuse et volage. Pendant longtemps,
ouais,
une femme
les deux.
Pendant longtemps, elle a multiplié les aventures. Pour un homme, quand
c'est très bizarre, d'ailleurs, parce que comme j'en ai parlé avec elle... J'en avais beaucoup de pudeur, on ne parlait pas de ces choses-là. Et je lui ai dit quand même, vers la fin, je lui ai dit, mais je connais un peu tous les amants que tu as eus, est-ce que tu as eu du plaisir ?
C'est fou de parler de ça avec sa mère,
quand même. Non, mais c'était vers la fin, quand même, j'étais grand. Hein. J'ai dit, mais est-ce que ça te plaisait ? Elle m'a dit non.
Ah ouais ?
Et j'ai dit, mais pourquoi ? Bah, pour avoir une présence, pour faire du bien, etc. C'était très étrange.
Mais c'est triste.
Oui et non, parce que c'est la vie qu'elle a souhaitée.
Ouais, mais si elle a dit été que c'était aimée, pour avoir une présence et qu'elle
aimée,
se sentait seule.
Non, mais je parlais de l'amour physique. Elle a été aimée, Moi, elle m'a dit une chose magnifique sur celui qui m'a fait. Parce que c'était l'époque, elle me dit, j'aurais tellement aimé faire l'amour dans un lit. Parce que tu sais, à la campagne, c'était le jardin du curé, voilà. C'était touchant qu'elle me dise ça. Mais on n'est jamais allé au-delà de ça dans nos confidences.
C'est ce que j'allais vous demander. Donc, très pudique, c'est quand même des discussions que tous les enfants n'ont pas avec les parents.
J'étais pas enfant d'abord. On a eu cette conversation.
Oui, mais le rapport.
J'avais 50 piges.
Oui, mais le rapport. Oui, mais vous restez son gamin.
Mais ma mère. Mais je suis pas allé à lui dire, mais comment tu te faisais sauter? C'est surtout pas.
Et par contre, vous lui racontiez?
Non, je suis raconté. Par contre, quand j'étais ado, je sais que je lui disais, mais ta copine, elle me plaît bien, tu peux pas t'arranger pour qu'elle vienne me voir, mais elle m'a arrangé le rendez-vous. Oui, ça c'est sûr. Entrez pas dans les détails, mais elle m'a arrangé le rendez-vous. Oui, je sais qu'elle m'a arrangé. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Et après, sa copine
elle m'a pas jugé.
Et après, sa copine lui racontait.
Quand je suis arrivé à la maison, que j'avais 17 ans, que j'ai dit, j'ai mis une fille enceinte, elle m'a dit, bah, tu te maries. Allez. Et puis ça va tellement les faire chier.
Bah justement, on va en parler.
Ici, dans le rétro.
On part en 1970.
Ah là là, les plus belles années.
Nous voici au lycée Georges Cabanis à Brive-la-Gaillarde. C'est dimanche, vous faites vos 4 heures de colle. Cette retenue, elle est tombée parce que vous n'avez pas fait vos devoirs. Comme excuse, vous répondez au prof « Non, ma femme a accouché
ben ». Oui.
Vous avez en effet 17 ans, vous êtes un homme marié et papa d'un petit garçon prénommé Sébastien. Autant dire que tout ça est assez mal vu par l'administration
très
scolaire.
Bien.
Vous passez donc votre bac en candidat libre. On a le sentiment, quand on connaît votre histoire, que vous avez souvent été rejeté ou mis de côté.
Mais tu sais, même encore, ça va te paraître bizarre, quand j'arrive dans un resto, dans une salle, etc., il y a toujours une petite voix qui me dit « t'es bien sûr qu'ils vont vouloir de toi ». Même aujourd'hui. Mais c'est plus fort que moi, c'est un truc qui m'est resté de l'époque. J'ai toujours le sentiment, quand j'arrive quelque part, que peut-être on va me dire « on veut pas de toi ». Mais même aujourd'hui, je te jure, hein. Moi j'étais très timide, je raconte ça dans le prochain bouquin, tout ça, je suis en train de t'en parler, parce que j'ai perdu ma timidité en vendant des bouquins en porte-à-porte, qui m'ont beaucoup aidé. Mais c'est vrai que j'ai encore ce truc-là, cette dire « on va me rejeter », voilà. Et d'ailleurs, on m'a rejeté beaucoup. Voilà, quand on m'a viré de la télé, je me suis retrouvé dans ma position de bâtarde quand j'avais 10 ans. Hein. C'est « casse-toi, on veut pas de toi, va-t'en ».
Comment vous réagissez par rapport au rejet des autres ?
Ben, on fait avec, on rebondit. Hein.
Ça vous attriste ?
Non, parce que c'est l'ordre des choses. C'est comme j'avais la possibilité de savoir avec certitude, peut-être, qui était mon père. Même je pourrais peut-être le savoir aujourd'hui. Et c'est hors de question. Je veux pas. Moi, j'ai été construit comme ça, je veux pas connaître, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir.
Oui, mais maintenant que vous avez été construit
ça. C'est ce qui m'a donné ma force. Quand on n'a pas eu de reconnaissance au départ, on va chercher la reconnaissance avec le public. Et je leur dis, vous avez été le père, vous avez remplacé le père que j'ai pas eu. Ça les touche parce
que
c'est vrai.
Qu'est-ce que vous risquez aujourd'hui à votre âge
de... Ça va me démolir, ça va me déconstruire complètement.
Ah ouais?
Je suis fait comme ça. Je suis fait dans le combat. Là, il y a 3 ans, je me fais virer de mon boulot, de mon couple et j'ai un cancer. Normalement, tu te relèves pas. Normalement. Regarde, j'ai 70 balais. 70 balais, le boulot viré, le couple qui s'arrête et un cancer. Il y a de quoi pleurer, tu vois ?
Ouais.
Au contraire, je fais un album qui s'appelle « Est-ce que tu l'as vu mon cul ?»
Vous vous relevez
parce
pas,
que
mais
c'est
je
ma
pense
survie.
Que vous vous relevez pas, mais je pense que quand on a vécu ce que vous avez vécu, c'est-à-dire la perte d'un enfant, après
ouais,
avoir vécu
moi,
ça, après avoir vécu ça, on peut vivre n'importe quoi.
Ouais,
si on a,
non,
si on a réussi à dépasser ça.
On aurait du mal à vivre la perte d'un deuxième.
Ouais.
C'est ce qu'il y a de pire. Parce que les gens te disent c'est pire. Il n'y a pas pire. Si, on perd un deuxième. Et puis il y a des gens qui vivent des choses tellement plus graves ailleurs. Il y a des gens qui se font massacrer en ce moment en Ukraine, en Palestine, des gamins qui se font exploser. Il faut relativiser nos malheurs. Et puis encore une fois, je te dis, pour moi, ils arrivent parce qu'ils doivent arriver. Donc le fait de penser comme ça, ça ne console pas, mais ça aide beaucoup, 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 beaucoup à relativiser.
Patrick Sébastien, après le lycée, vous faites aussi un CAP esthétique.
Non,
l'épilation n'a alors plus de secret pour vous. Bah si.
Ça va pas, non ?
Pas
ah bah oui.
Forêt, pas le buisson touffu, mais le petit jardin très bien entretenu.
J'adore ce refrain.
Ah oui,
et surtout, ce que j'aime, c'est, tu peux baisser, c'est le couplet d'après où je dis surtout pas le ticket de métro. Quand
ouais,
tu t'approches
c'est pas votre truc.
Pour mettre la langue aux choses,
oh.
C'est une insulte à la dernière guerre. T'as l'impression de rouler une gamelle à Hitler.
Voilà.
Ça fait rire.
Voilà. Ça s'appelle donc Belle Andalouse. Je parlais du CAP esthétique, évidemment, c'est
non,
bidon.
C'est
depuis
bidon,
que... Mais ça me permet de parler du poil avec vous. J'avais envie de parler des poils avec
non,
vous.
Non,
mais
c'est
si,
parce que
si, mais si.
C'est une hantise des vieux qui préfèrent les pelouses aux jeunes filles. Qui a une nana de 50 balais avec rien, ça fait un peu fifi, quoi. C'est...
Non, mais les poils, vous en parlez quand même pas mal, parce qu'il
ah bon
y a Amélie aussi dans votre titre Vanille Chocolat qui se rase plus les aisselles. Vous avez remarqué sur les réseaux sociaux.
Oui, mais c'est un truc de vie. C'est un truc très marrant. D'ailleurs, j'avais écrit dans un autre bouquin un truc que j'ai remarqué. Attends, je suis en train de regarder autour de moi. Ouais. Tu sais, cette barbe de 2 jours qu'ont tous les mecs.
Ouais.
Pour moi, c'est pas innocent. Ça veut dire que c'est une manière de rattraper ce que les femmes sont en train de leur voler. C'est-à-dire que les femmes sont en train d'arriver à leur niveau et le reste de virilité qui leur reste, ils le portent sur la figure.
Ah, vous croyez ?
Ah, moi j'en suis persuadé. Ils rasent le bas et ils laissent pousser le haut. Je pense que c'est un symbole d'une certaine virilité pour les différencier des femmes qui sont arrivées à leur niveau.
Vous savez, Patrick Sébastien, que 46% des femmes estiment important qu'un homme s'épile pour être séduisant. Chez les 25-34 ans, le chiffre grimpe même à 56%.
J'ai pas envie d'être séduisant. Séduire, oui, c'est bien de séduire. Bon, il y a tellement de manières de séduire.
Et c'est marrant parce que je voulais parler des poils, mais on parle de séduction, c'est bien.
Bah oui, des poils.
Non, mais c'est bien, vous relevez le niveau.
Moi, les poils, c'est pas très important pour moi, franchement. Il m'est arrivé de me raser, oui, de me raser vraiment. Et puis d'autres fois, de laisser pousser, mais j'ai pas de truc particulier. Je suis pas malade non plus de tout ça.
Je voulais parler des poils, mais c'était pas parler des vôtres en particulier.
Non. Mais même chez les
autres. Non, je voulais parler d'un phénomène de société, en fait, mais c'est pas grave.
Mais moi, le phénomène de société, je te jure, il est sur le visage des mecs. Tu regarderas. Le côté barbe de deux jours, pour moi, c'est un vrai symbole de on est en retard, elles sont en train de nous rattraper et il faut qu'on montre qu'on est des hommes.
Plus sérieusement, Patrick Sébastien, pas de CAP esthétique, on part à la fac, destination Paris.
C'est après.
Nous voici à la fac à de lettres.
À Limoges.
Ah, c'était à Limoges, je crois que c'était à Paris.
À Limoges.
Bon, je me suis plantée, c'est pas grave.
Je suis pas resté longtemps.
Ok. Vous étudiez la philosophie, vous vous dites rousseauiste, référence donc à Sandrine Rousseau.
Non, je suis rousseauiste parce que je pense comme lui qu'il y a deux théories. Il y a des gens qui considèrent.
Référence à Jean-Jacques Rousseau.
Ouais, il y a des gens qui considèrent qu'il y a des gens qui naissent bons, d'autres mauvais. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que tout le monde naît bon et que les circonstances font que certaines deviennent mauvaises. Après, c'est une théorie qui est invérifiable, encore une fois, mais elle est plutôt rousseauiste, la théorie.
Pour Jean-Jacques Rousseau, la nature a fait l'homme heureux et bon, ouais. Mais c'est la société qui le déprave et le rend misérable.
C'est ce que je pense.
Ouais, vous pensez que c'est la société qui nous rend mauvais, qui nous rend haineux ?
C'est écrit comme ça. Il y a certains qui sont programmés pour être comme ça. Et la société se charge, selon le lieu où on décidait qu'ils allaient vivre, selon l'entourage qu'ils ont. Mais encore, je n'ai pas de certitude là-dessus. Je suis dans... Je vais faire marrer les mecs qui vont dire, c'est pas possible que ce soit le même qui chante la Kekata Raoul. Je suis dans l'hyperbolique de Descartes. C'est-à-dire que j'ai le doute et j'ai même parfois le doute de mon doute. Les théories que j'avance, j'en suis pas sûr. Mais j'ai mes préférences.
Dans la société aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de haine, beaucoup plus d'animosité.
Oui, là, l'interview qu'on est en train de faire, tu vas balancer ça sur les réseaux, tu vas avoir 10% de mecs qui vont dire quel gros con, quel machin. C'est ça, c'est de la haine distillée. Comme a dit un ami l'autre jour, les réseaux sociaux, ils n'ont pas inventé les rats, mais ils leur ont donné la parole. Ça m'a fait rire. Et cette haine, elle est entretenue dans les médias énormément. Je fuis, mais je ne suis pas le seul à fuir maintenant. Les gens, ils ont commencé à comprendre. Entre les infos, les séries, les agressions, les politiques qui sont au-dessous de tout pour moi aujourd'hui. Parce que c'est que ça. C'est des agressions. On se fout de ma gueule parce que j'ai dit « c'est que de l'amour ». Mais franchement, moi, je préfère que mes gamins, ils aient de l'amour autour d'eux plutôt que de la haine. Ça me paraît tellement évident.
Vous parliez des réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on fait tout pour nous abêtir et pour justement éviter de nous élever ? C'est un discours qu'on entend.
Non, les réseaux sociaux, ils ont deux trucs. Ils sont une poubelle par moment. Et puis après, il y a des choses formidables. Ils ont permis à des gens qui seraient absolument pas connus d'avoir accès à la lumière. C'est des compagnons de solitude. Non, il y a une petite frange de gens aigris, méchants, malheureux surtout. Malheureux. Parce que pour faire ça de sa vie, il faut vraiment être malheureux. Tu ne peux te lâcher sur les réseaux méchamment que si tu es en frustration totale. Si quelque chose te manque, si t'es malheureux. Donc, à la limite, ces gens-là sont plus à plaindre qu'à blâmer. Après, par bonheur, il y a d'autres exemples. Maintenant, le discours que j'ai, moi, d'humanisme, de respect de l'autre, on devrait être beaucoup plus à le tenir, mais on ne laisse pas la place de le tenir. Parce que tout de suite, tu vas dire, ouais, c'est bisounours, c'est machin, c'est tout ça. Et on va laisser s'exprimer des gens pleins de haine.
C'est qui on ?
Les médias, les responsables, qui savent aussi que c'est un bon moyen de calmer la population. L'anxiété qui est déversée sur les gens, elle est volontaire. Quand on montre aux gens des catastrophes, des cataclysmes, un téléfilm où la petite fille se fait violer, assassiner, le mec qui est dans son fauteuil, il se fait « Putain, heureusement que ça m'arrive pas à moi. C'est pas la peine que je descende dans la rue demander ce qu'on me doit. C'est voulu. »
On entretient la peur ?
Bien sûr. Un des trucs qui garantit la paix sociale, c'est la peur de perdre ce qu'on a. Des mecs qui vont pas manifester pour demander plus, ils ont peur déjà de perdre ce qu'ils ont. On les tient comme ça.
C'est quoi la suite ?
Je suis plutôt pessimiste sur la suite. Je fais partie des gens qui sont pas très optimistes. Je serai pas là pour le voir, par bonheur. Mais mes enfants, hélas... Mais ça va pas venir d'un messie, ça va pas venir d'un homme providentiel, ça va venir d'une vague générale qui viendra des gens eux-mêmes.
Donc il faut se révolter ?
Ouais, mais se révolter sans violence, se révolter avec les valeurs qu'on est en train de perdre petit à petit, se révolter avec plus d'humains, ce que j'ai toujours prétendu.
Se révolter sans violence,
c'est difficile. Hein.
Est-ce qu'on est entendu quand on se révolte sans violence ?
Si on est suffisamment nombreux, on le sera.
Donc on se révolte comment alors ?
Il faudrait,
sans violence, ça passe par quoi ?
Il faudrait des millions de Jésus et ils n'auront pas assez de clous. Ça, c'était dans mon dernier bouquin. Ils ont repassé de clou. Je sais pas, mais moi, je suis pas un prophète, je suis pas un penseur, je suis pas un philosophe, je suis pas...
Non, mais vous êtes
j'essaie
un citoyen.
De le faire à ma façon, à moi. J'apporte de la joie aux gens, j'apporte de la détente, quitte à prendre sur la gueule tout ce qu'ils ont envie de dire sur moi, c'est pas grave. Et puis, dans mon quotidien, moi, je me lève tous les matins en me disant à qui je vais pouvoir faire du bien, pas à qui je vais faire du mal. Je me lève tous les matins et dans la journée, je trouve toujours une occasion de prendre mon téléphone, d'appeler quelqu'un, d'aider quelqu'un, pas forcément aller au secours des... d'être dans une asso, etc. et tout. Non, au quotidien. Appeler un parent, un enfant, un ami qu'on n'a pas eu depuis longtemps, essayer de réconforter quelqu'un. Je fais au moins une fois par jour, je fais ça.
Patrick Sébastien, vous arrêtez vos études pour vous produire dans des cabarets téléportation destination 18e arrondissement de Paris.
18e ?
Ouais. Vous avez 21 ans, vous faites
là,
votre première
monde, hein.
scène.
Il n'y avait pas tant
c'est
de monde.
C'est début. Ah, il n'y avait pas tant de monde.
Oh là non.
À la main au panier.
Tu sais, les premiers cabarets, il y avait 10 personnes, des fois 5, des fois 4.
Votre truc, c'est le spectacle, l'humour, le public, le divertissement, la fête.
La facilité. Oh. 88, ça. Ça, c'est le grand bluff. 92.
C'était les années bonnes.
Ça, c'était bien.
Les années 70.
Parce qu'on mélangeait. C'est le cabaret. Ah, ça fait drôle, écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas entendu les génériques.
Ouais, générique. Entre 77 et 2023, on vous voit à la télé avec des émissions devenues cultes, dans des séries aussi. Vous dites, en parlant de la télé, elle n'est pas faite pour moi et je ne suis pas fait pour eux.
Non, aujourd'hui, non.
Pourtant, vous y avez passé de nombreuses années à la télé. Est-ce que c'est pas plutôt...
Non, elle parle de la télé d'aujourd'hui. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Elle n'est plus faite.
Ah non, elle est plus faite
pour moi.
En gros,
elle est plus faite pour vous et vous n'êtes plus fait pour... Pourquoi vous n'êtes plus fait pour eux?
Parce que je représentais quelque chose qui les gênait. Et à partir du moment où ce qu'ils voudraient que ce soit, je ne corresponds pas à ce dogme-là, d'entrée, j'étais dans la charrette, quoi. C'était faut plus, alors au départ c'est louable, plus d'inclusion, plus etc., c'est très bien, sauf qu'il y a une ségrégation en disant tous les autres dehors. Moi, c'est pas que moi qu'on a viré, c'est tous les gens qui me regardaient. C'est parce qu'ils aiment pas ces gens, ils en veulent pas. Vous pensez mal, ce que vous regardez c'est pas bien, regardez autre chose.
Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Cyril Hanouna?
Oh, Cyril, c'est compliqué, c'est mon ami Cyril, c'est compliqué. Il y a tellement de choses derrière, c'est une frénésie qui... J'en parle aussi dans mon prochain bouquin. J'aime bien quand il fait de la gaudriole. Voilà. Quand il fait de la politique, je lui ai dit, ça m'emmerde. C'est pas sa place.
À ces gens de la télé, Patrick Sébastien, vous leur mettez un doigt, deux doigts, trois doigts ou le bras?
C'est une image, je leur mets rien du tout.
Non, mais je vous pose cette question en rapport à ce type.
C'est eux qui ont commencé. Hein.
Hey, les bien pensants qui nous fliquent, on leur met un doigt. Les cons, les antipathiques, on leur met deux doigts. Les faux culs de la politique, on leur met trois doigts. Et tous ceux qui nous critiquent, on leur met le bras.
C'est marrant que tu me fasses écouter ça, parce qu'on m'a dit un truc hier qui m'a...
De quoi ?
Qui m'a bluffé. Un homme politique, je ne te citerai pas, mais très important. C'est pas le président de la République, mais un homme politique très important, qui a fait écouter un ami, les Mohicans, en disant « Putain, il nous met trois doigts et moi je l'adore. Mais comment... Mais il devrait pas. » J'ai trouvé ça très... Mais je trouve ça marrant. Non, c'est une image, mais je le pense, ouais. C'est eux qui ont commencé, c'est pas moi, hein.
Tous ceux qui nous critiquent, on leur met le bras, c'est bien, ça rime. Mais plus sérieusement, si tout le monde réagit comme ça, on va pas aller bien loin. C'est d'ailleurs un peu le cas aujourd'hui, justement. Plus accepter la critique, de plus...
C'est une vanne. Hein.
Oui,
c'est...
non, mais je sais, mais moi, j'essaie de prendre au premier degré.
C'est une saillie chansonnier. Et puis, c'est pas sûr que ça rentre. Hein. Enfin, chez certains, c'est sûr, mais sur d'autres, non, c'est pas sûr. Non, c'est une saillie chansonnier. Non, c'est aussi, on va pas se laisser emmerder. Là, je crois qu'il y a un ralenti dans la chanson où je dis « Notre Père qui êtes aux cieux, quand on montera là-haut, faites qu'on s'éclate et qu'on retrouve la liberté qu'on n'a plus en bas. » Voilà.
On n'a plus de liberté?
On en a très peu. Elle est conditionnée. Si on en a quand même par rapport à des régimes complètement dictatoriaux, bien sûr qu'on a une certaine liberté.
Où est-ce qu'elle s'arrête
à celle des autres.
Non, mais là, dans le concret, dans la société, où est-ce que vous avez l'impression d'être bridé, d'être...
On en a parlé avant, on a l'impression d'être bridé dans nos rapports entre les uns et les autres, dans ce qu'on nous impose. On nous impose d'être... On est devenus des pions, on est devenus des images. La télé, c'est devenu quoi aujourd'hui? C'est devenu une grande bande-annonce publicitaire et quelques bribes d'émissions au milieu. C'est pas ça, moi, quand j'ai débuté la télé. Moi, toutes mes émissions du cabaret, je les ai faites avec une pub au début, une pub après. Là, aujourd'hui, c'est des petits bouts de saucisson. Et sur les réseaux aussi. C'est du commerce. Et d'ailleurs, les gens se gourrent pas. Les primes font 3 millions maximum, tu vois, 3, 4 millions. Parce que c'est découpé. Parce qu'on fait des émissions avec le moins d'argent possible et que ça rapporte le plus aux producteurs. Il y a une mafia de producteurs qui est extraordinaire, qui se gave, mais même avec l'argent public, et qui font des émissions à bas prix. Le cabaret ne pourrait plus se faire aujourd'hui. Parce que ça coûtait de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on payait les gens. Voilà, on payait les artistes, on payait les mecs qui venaient des États-Unis, fallait payer le fret, le cachet, machin. Ça se ferait plus aujourd'hui. On essaie de faire l'émission qui va coûter le moins cher possible, qui va rapporter le plus. C'est pour ça qu'il y a des concours. Parce que le concours, tu payes pas les gens. Tu as un prix à la fin. Donc on fait travailler des gens sans les payer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pourrais pas faire ça. Chaque peine mérite salaire, quoi. Donc c'est une autre télé. Mais j'ai rien contre, hein. Les politiques et ont pris la place des artistes. Tous les jours, tu as sur les chaînes info, c'est des politiques qui viennent parler. C'est des chroniqueurs, des observateurs.
Vous pensez que les chaînes d'info ont fait du mal à la société, au monde?
Non, elles font du bien. Moi,
je les regarde,
j'ai besoin de m'informer. Après, je prends ce que je veux. Je zappe entre CNews et BFM pour avoir les deux bords. Et puis, je prends ce que je veux. Je me méfie. Mais je m'informe. Parce qu'il n'y a rien de pire que de parler de quelque chose sans être au courant. Alors, on est au courant, mais avec des viseurs tronqués. On ne peut pas rester en dehors, parce qu'on ne peut pas juger la société sans la connaître. Et c'est vrai que les réseaux, et c'est vrai que la télé, bah, ça nous informe, au moins. Je pense que s'il y avait eu ces réseaux-là, juste avant la guerre de 39, la guerre n'aurait pas eu lieu.
Ah, voilà. Sérieusement?
Si on avait été informé des montées qu'il y avait de ce type, je pense que les gens auraient réagi. Ouais, c'est compliqué. Mais il y aurait eu autre chose. Il y aurait eu autre chose d'aussi dangereux.
Parce qu'il y a beaucoup de propagande aussi sur les réseaux sociaux.
Là, les deux, ils s'en foutent, là. Les deux malades, là. Poutine et l'autre, là. Moi, je leur crache pas dessus parce que c'est...
Poutine et qui?
Et Poutine et Trump, ouais, ils me font peur, ces gens. Ouais. Ils me font peur. Ouais.
On arrive bientôt à la fin de notre voyage. Vous savez que dans cette émission, on aime parler d'amour.
Ouais, c'est ouais. Quoi ça?
Allez, on y va.
C'est un nouveau truc qui vient d'arriver.
De quoi, l'amour?
L'amour, c'est un nouveau truc qui vient d'arriver.
Alors ça, c'est en 2022, ce qu'on vient d'entendre, c'est une porte qui claque, qui symbolise la fin d'une histoire d'amour. Je ne sais pas si c'est vous qui l'a claqué.
Non, on l'a ouvert ensemble. On l'a ouvert ensemble, on est au bout de 30 ans.
Je vais terminer quand même.
À la fin du... Non mais
je vais expliquer à ceux qui nous écoutent, parce que là, vous démarrez au quart de tour.
Je vais
expliquer.
Je vais te dire, tu dis c'est la fin d'une histoire d'amour.
Mais je n'ai pas fini ma phrase. Donc je ne sais pas si c'est vous qui mettez fin ou si c'est Nathalie, mais après avoir partagé 30 ans de votre vie ensemble, vous vous séparez. Aujourd'hui, voilà. Nana continue de bosser avec vous. Comment on dépasse la douleur d'une séparation?
Il n'y a pas de douleur en fait. Tu dis que c'est la fin. Non, l'histoire, c'est organisée autrement, c'est tout. On a toujours de l'estime l'un pour l'autre, on a toujours... Elle a eu aussi besoin de vivre autre chose, ce que moi j'ai trouvé formidable. Je suis passé sur mon orgueil, moi, je me dis, il faut que tu vives autre chose que je peux pas t'apporter.
Vous étiez orgueilleux?
Non, mais on a tous un orgueil. Quand quelqu'un te dit, je vais aller vivre autrement ailleurs, tant mieux, moi j'ai dit tant mieux, parce que tu vas faire des choses que moi je peux plus faire avec toi, parce que j'ai pas envie de les faire, mais on reste plus que proches, on a notre fille en plus au milieu.
Est-ce que c'est pas difficile quand on rencontre un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne?
Ben pour l'instant, ni elle ni moi n'avons ça sous le coude, et puis je cherche même pas à savoir, ça m'intéresse pas, puis si elle le rencontre, c'est très bien.
Vous seriez content pour elle?
Mon ancienne femme Fanfan, je me la suis fait piquer par un dentiste formidable, que j'adore, qui est mon pote. Voilà, si le mec tient la route...
C'est rare quand même d'avoir un gars qui raconte qu'il s'est fait piquer sa femme par un pote et qu'il est encore pote avec celui qui...
Non seulement je suis pote, mais je me revois même plus que mon ex-femme, parce que c'est un gentil mec, il s'est occupé de mon fils d'une manière absolument formidable. C'est ça le... Au lieu d'avoir la putain de boule au milieu du ventre, je l'ai pas. Il y a un moment, faut penser à soi. Moi, avec Nana, j'ai pas envie d'avoir la boule en me disant avec qui elle est, machin. Non, j'ai dépassé ça. Je le conseille à tout le monde. Tu te rends compte du nombre de crimes passionnels, de drames qu'il y a, d'arrachage d'enfants au milieu? Notre fille,
mais là, vous partez dans des extrêmes.
Dans les extrêmes? Dans les séparations? Je pars pas dans les extrêmes, je pars dans le quotidien. Le nombre de séparations qui se passent mal à cause de la bêtise des parents et de leur orgueil, qui mettent les enfants au milieu, qui se servent des enfants. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. L'amour, le vrai, c'est celui qu'on a pour notre fille en se disant on va la protéger au-delà de tout. Quelles que soient nos blessures intimes, on va la protéger au-delà de tout. Et on va souhaiter que l'autre de nous deux soit le plus heureux possible, on fera tout pour. Franchement, la seule différence, c'est qu'on n'habite pas ensemble, on n'a pas les mêmes histoires sentimentales. C'est tout. Mais le reste, putain, moi je crois beaucoup à ça. D'ailleurs, moi j'aurais beaucoup plus de beaux souvenirs dans ma vie des aventures que j'ai eues où il y avait que de l'amour amitié, il n'y avait pas une dépendance. C'est celles-là qui m'ont le plus emballé.
Quand vous parlez de dépendance, c'est quoi ?
L'appartenance.
Ouais.
L'appartenance. On n'appartient à personne. C'est à moi, tu sais, c'est ma femme. C'est mon mari. C'est mon gosse. C'est pareil avec les enfants, hein. Ils ne nous appartiennent pas.
Vous dites, Patrick Sébastien, être un infidèle chronique, mais vous ne vous en êtes jamais caché de vos infidélités. À partir du moment... À partir du moment où on ne s'en cache pas, ce n'est pas des infidélités, c'est une relation libre. Comment on prouve son amour et comment on rassure la personne avec qui on est quand on a des aventures avec d'autres ?
Quand on est là, quand ça ne va pas. Parce que c'est facile d'être là quand ça va bien. Il faut être là quand ça ne va pas. C'est ça une vraie relation amoureuse. Quand ça va bien, partager des choses, oui, mais c'est beaucoup plus difficile d'être là quand ça ne va pas. Et puis l'infidélité, je m'en suis jamais... Tu sais, il y a deux solutions. Il y a le mec qui se marie avec toi et qui dit « chérie, je vais être fidèle toute ma vie ». Et il tient pas. Hein. Il y en a beaucoup qui tiennent pas. Moi, j'ai dit, je pourrais pas être fidèle. Mais par contre, je t'impose pas de l'être. Attention. Parce que ça, ça, c'est pas bien, ça. C'est pas, moi, je suis infidèle et toi, tu restes à la maison. Bah non. C'est pas juste, ça. Il n'y a pas plus féministe que ça, en fait, finalement. Comme les filles que je connais qui ne veulent pas d'enfants, en se disant, parce que je serais pas capable de l'élever. Voilà. Et je préfère ça que les nanas qui font des enfants alors qu'elles sont incapables de les élever et qui les font quand même. Ou les mecs qui se marient et les nanas qui se marient en disant « mon chéri, je vais être fidèle toute ma vie » et qui le sont absolument pas. Là, il y a trahison. Il y a une vraie trahison. Après, l'infidélité, c'est encore une fois, elle est placée où ? Est-ce que l'infidélité, elle commence pas dans le premier regard avec quelqu'un parce que tu t'imagines que elle commence
où ? Elle
commence pas dans un plumard, l'infidélité.
Elle commence où ?
Elle peut commencer à n'importe quel moment, dans un regard, dans un fantasme. Elle peut commencer n'importe quand, une infidélité. Après, c'est des comptes entre toi et toi. C'est pas forcément on va coucher ensemble. Ben, si vous couchez ensemble, c'est un aboutissement de l'infidélité, mais elle est ailleurs. C'est comme en amitié, hein. Il y a beaucoup de jaloux de leur ami. Quand ils sont copains avec quelqu'un d'autre, ça leur fait mal. Encore une fois, la possession. D'ailleurs, la possession est à la base de tous les maux de l'humanité. J'ai discuté avec un ami qui a fait l'Odyssée de l'espèce. Il me racontait que les nomades du début, tout s'est bien passé tant qu'ils n'avaient rien. Le jour où ils ont été propriétaires, c'est mon jardin, c'est ma femme, c'est là que les emmerdements ont commencé. Mais quand ils partageaient tout et qu'ils étaient nomades, il n'y avait pas d'ennui. C'est du moment où on a marqué nos territoires. Physique et matériel. Nos maisons, notre travail, notre argent, notre mari, notre frère, notre sœur, notre enfant.
Patrick Sébastien, dans votre album Olé Osé, il y a beaucoup de références sexuelles, amoureuses. Mmh. Est-ce qu'un couple peut être heureux sans sexe ?
Oui, moi je pense, oui. Moi ça m'est arrivé de rester très longtemps avec quelqu'un sans sexe et d'être très bien avec.
Oui, mais peut-être parce que vous aviez des...
Vous alliez voir ailleurs. Je sais pas, franchement, il y en a qui s'en contentent très bien. Il y en a pour qui c'est essentiel. Le sexe, il y a une espèce d'hypocrisie autour. Mais enfin, je vois combien on est là. On est cinq, là. Je vous rappelle que chacun des personnes ici, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui écarte les cuisses et quelqu'un qui rentre dedans pour qu'on soit là, déjà.
Ah bon, c'était pas les cigognes.
Au moins une fois. Oui, non, c'était pas les cigognes.
Ah, je croyais.
Ça me rappelle la blague que je raconte en Coluche tous les soirs sur scène en disant « Maman, j'ai une petite sœur. Bah, je vais téléphoner à la cigogne. Tu vas pas essayer avec la bite à papa d'abord ?» Voilà, c'est une blague, c'est une connerie. Non, mais c'est vrai, il y a une hypocrisie monstrueuse autour de ça. Mais après, il n'y a pas que ça dans la vie. C'est pas mon obsession. Ça fait partie de la vie.
Selon une étude de l'IFOP, en France, les jeunes font de moins en moins l'amour. Une des raisons, c'est que le temps sexuel est concurrencé par le temps passé sur les écrans.
Ben, c'est ce que je te disais, on devient des images. L'image prend le pas sur l'humain. J'en parle beaucoup dans mon prochain livre, c'est marrant, on en est déjà dedans. J'expliquais la première fois où nous, on était dans la peur de l'inconnu, et aujourd'hui, ils sont dans la peur du connu. Nous, on découvrait nos premiers rapports de notre génération, on avait juste eu des trous de serrure, où il n'y avait pas de film porno, rien. Donc on découvrait. Et eux, ils essaient de reproduire ce qu'ils ont vu dans les pornos, ils sont dans la perf. Plus que dans la découverte. Donc ça fait un espèce de décalage des deux côtés où il y a deux peurs jumelles qui sont pas très intéressantes. Mais bon, c'est pas, il y a pas que ça.
Patrick Sébastien, l'émission touche à sa fin et comme vous le chantez...
Il n'y a pas que le cul dans l'air.
Voilà,
tu vois. Il y a la mer, le soleil et les petits oiseaux. Il n'y a pas que le cul dans la vie.
Et après ?
Il y a les fleurs, les abeilles et la bite à mon nom.
Et puis il y a les spermatozoïdes aussi, où je dis, petit spermatozoïde, où vas-tu ? Ça rejoint ce qu'on venait de dire. Je vais dans le sopalin, dans le gant de toilette, ça fera un con de moins qui peut pleurer à la planète.
Vous êtes complètement
malade.
Barré.
Je sais. Et je suis très fier de l'être.
Merci
et,
Patrick Sébastien.
Et d'avoir la chance d'avoir ton amitié, que tu me reçoives aussi bien à chaque fois.
Merci beaucoup.
Merci à toi, ma belle.
Olé, osé, c'est l'album complètement barré de Patrick Sébastien. Bali Balo n'a qu'à bien se tenir. Olé, osé, c'est l'album. Et pour aller faire la fête avec Patrick Sébastien, il y a la tournée Hommage et Dessert. Un spectacle avec des chansons, des imitations et des confidences. Vous allez vous marrer, mais vous allez être touchés aussi. Dans le rétro, passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.